Chapitre 2. Un moment de silence régna pendant lequel Madame Camusot réfléchissait. « Es-tu sûre que ton prévenu soit Jacques Collin ? » demanda-t-elle. « Sûre, » répondit le juge, « et le procureur général aussi. Eh bien, tâche donc, sans laisser voir tes griffes de chafouré, de susciter un éclat au palais de justice. Si ton homme est encore au secret, va voir immédiatement le directeur de la conciergerie, et fais en sorte que le forçat y soit publiquement reconnu. Au lieu d'imiter les enfants, imite les ministres de la police dans les pays absolus qui inventent des conspirations contre le souverain pour se donner le mérite de les avoir déjoués et de se rendre nécessaires. Mets trois familles en danger pour avoir la gloire de les sauver. » Ah, quel bonheur ! S'écria Camusot. J'ai la tête si troublée que je ne me souvenais plus de cette circonstance. L'ordre de mettre Jacques Collin à la pistole a été porté par Coquart à M. Gault, le directeur de la conciergerie. Or, par les soins de Bibi Lupin, l'ennemi de Jacques Collin, on a transféré de la force à la conciergerie trois criminels qui le connaissent, et s'ils descendent demain matin au préau, l'on s'attend à des scènes terribles. Et pourquoi ? Jacques Collin, ma chère, est le dépositaire des fortunes que possèdent les bagnes et qui se montent à des sommes considérables. Or, il les a, dit-on, dissipées pour entretenir le luxe de feu Lucien, et on va lui demander des comptes. Ce sera, m'a dit Bibi Lupin, une tuerie qui nécessitera l'intervention des surveillants et le secret sera découvert. Il y va de la vie de Jacques Collin. Or, en me rendant au palais de bonheur, je pourrai dresser procès-verbal de l'identité. Ah, si c'est commettant te débarrasser de lui, tu serais regardé comme un homme bien capable. Ne va pas chez M. de Granville, attends-le à son parquet avec cette arme formidable. C'est un canon chargé sur les trois plus considérables familles de la cour et de la pairie. Sois hardi. Propose à M. de Granville de vous débarrasser de Jacques Collin en le transférant à la force, où les forçats savent se débarrasser de leurs dénonciateurs. J'irai, moi, chez la duchesse de Maufrigneuse, qui me mènera chez les Grandlieu. Peut-être verrai-je aussi M. de Sérisy. Fie-toi à moi pour sonner l'alarme partout. Écris-moi surtout un petit mot convenu pour que je sache si le prêtre espagnol est judiciairement reconnu pour être Jacques Collin. Arrange-toi pour quitter le palais à 2 heures. Je t'aurai fait obtenir une audience particulière du garde des Sceaux. Peut-être sera-t-il chez la marquise d'Espard. » Camusot restait planté sur ses jambes dans une admiration qui fit sourire la fine Amélie. « Allons, viens dîner et sois gai, » dit-elle en terminant. « Vois, nous ne sommes à Paris que depuis 2 ans et te voilà en passe de devenir conseiller avant la fin de l'année. De là, mon chat, à la présidence d'une chambre à la cour, il n'y aura pas d'autre dispense qu'un service rendu dans quelque affaire politique. » Cette délibération secrète montre à quel point les actions et les moindres paroles de Jacques Collin, dernier personnage de cette étude, intéressaient l'honneur des familles au sein desquelles il avait placé son défunt protégé. La mort de Lucien et l'invasion à la conciergerie de la comtesse de Sérisy venaient de produire un si grand trouble dans les rouages de la machine que le directeur avait oublié de lever le secret du prétendu prêtre espagnol. Quoi qu'il y en ait plus d'un exemple dans les annales judiciaires, la mort d'un prévenu pendant le cours de l'instruction d'un procès est un événement assez rare pour que les surveillants, le greffier et le directeur fussent sortis du calme dans lequel ils fonctionnent. Néanmoins, pour eux, le grand événement n'était pas ce beau jeune homme devenu si promptement un cadavre, mais bien la rupture de la barre en fer forgé de la première grille du guichet par les délicates mains d'une femme du monde. Aussi, directeur, greffier et surveillant, dès que le procureur général, le comte Octave de Beauvan, fut reparti dans la voiture du comte de Sérisy en emmenant sa femme évanouie, se groupèrent-ils au guichet en reconduisant M. Lebrun, le médecin de la prison, appelé pour constater la mort de Lucien et de s'entendre avec le médecin des morts de l'arrondissement où demeurait cet infortuné jeune homme. On nomme à Paris médecin des morts le docteur chargé dans chaque mairie d'aller vérifier le décès et d'en examiner les causes. Avec ce coup d'œil rapide qui le distinguait, M. de Granville avait jugé nécessaire, pour l'honneur des familles compromises, de faire dresser l'acte de décès de Lucien à la mairie dont dépend le quai Malaquais, où demeurait le défunt, et de le conduire de son domicile à l'église Saint-Germain-des-Prés, où le service funèbre allait avoir lieu. M. de Chargeboeuf, secrétaire de M. de Granville, mandé par lui, reçut des ordres à cet égard. La translation de Lucien devait être opérée pendant la nuit. Le jeune secrétaire était chargé de s'entendre immédiatement avec la mairie, avec la paroisse et l'administration des pompes funèbres. Ainsi, pour tout le monde, Lucien serait mort libre et chez lui, son convoi partirait de chez lui, ses amis seraient convoqués chez lui pour la cérémonie. Donc, au moment où Camusot, l'esprit en repos, se mettait à table avec son ambitieuse moitié, le directeur de la conciergerie et M. Lebrun, médecin des prisons, étaient en dehors du guichet, déplorant la fragilité des barres de fer et la force des femmes amoureuses. « On ne sait pas, disait le docteur à M. Gault en le quittant, tout ce qu'il y a de puissance nerveuse dans l'homme surexcité par la passion. La dynamique et les mathématiques sont sans signes ni calculs pour constater cette force-là. Tenez, hier, j'ai été témoin d'une expérience qui m'a fait frémir et qui rend compte du terrible pouvoir physique déployé tout à l'heure par cette petite dame. » « Comptez-moi cela, dit M. Gault, car j'ai la faiblesse de m'intéresser au magnétisme, sans y croire, mais il m'intrigue. » Un médecin magnétiseur, car il y a des gens parmi nous qui croient au magnétisme, reprit le docteur Lebrun, m'a proposé d'expérimenter sur moi-même un phénomène qu'il me décrivait et duquel je doutais. Curieux de voir par moi-même une des étranges crises nerveuses par lesquelles on prouve l'existence du magnétisme, je consentis. Voilà le fait. Je voudrais bien savoir ce que dirait notre Académie de médecine si l'on soumettait l'un après l'autre ses membres à cette action qui ne laisse aucune échappatoire à l'incrédulité. Mon vieil ami, ce médecin, dit le docteur Lebrun en ouvrant une parenthèse, est un vieillard persécuté pour ses opinions par la faculté depuis Mesmer. Il a 70 ou 12 ans et se nomme Bouvard. C'est aujourd'hui le patriarche de la doctrine du magnétisme animal. Je suis un fils pour ce bonhomme, je lui dois mon état. Donc le vieux et respectable Bouvard me proposait de me prouver que la force nerveuse mise en action par le magnétiseur était non pas infinie, car l'homme est soumis à des lois déterminées, mais qu'elle procédait comme les forces de la nature dont les principes absolus échappent à nos calculs. « Ainsi, me dit-il, si tu veux abandonner ton poignet au poignet d'une somnambule qui, dans l'état de veille, ne te le presserait pas au-delà d'une certaine force appréciable, tu connaîtras que, dans l'état si sottement nommé somnambulique, ses doigts auront la faculté d'agir comme des cisailles manœuvrées par un serrurier. Eh bien, monsieur, lorsque j'ai eu livré mon poignet à celui de la femme, non pas endormi, car Bouvard réprouve cette expression, mais isolé, et que le vieillard eût ordonné à cette femme de me presser indéfiniment de toute sa force le poignet, j'ai prié d'arrêter au moment où le sang allait jaillir du bout de mes doigts. Tenez, voyez les bracelets que je porterai pendant plus de 3 mois. Diable, dit M. Gault en regardant une ecchymose circulaire qui ressemblait à celle qu'eût produite une brûlure. Mon cher Gault, reprit le médecin, j'aurais eu ma chair prise dans un cercle de fer qu'un serrurier aurait vissé par un écrou, je n'aurais pas senti ce collier de métal aussi durement que les doigts de cette femme. Son poignet était de l'acier inflexible et j'ai la conviction qu'elle aurait pu me briser les os et me séparer la main du poignet. Cette pression, commencée d'abord d'une manière insensible, a continué sans relâche en ajoutant toujours une force nouvelle à la force de pression antérieure. Enfin, un tourniquet ne se serait pas mieux comporté que cette main, changée en un appareil de torture. Il me paraît donc prouvé que, sous l'empire de la passion, qui est la volonté ramassée sur un point et arrivée à des quantités de forces animales incalculables, comme le sont toutes les différentes espèces de puissances électriques, l'homme peut apporter sa vitalité tout entière, soit pour l'attaque, soit pour la résistance, dans tel ou tel de ses organes. Cette petite dame avait, sous la pression de son désespoir, envoyé sa puissance vitale dans ses poignets. Il en faut diablement pour rompre une barre de fer forgé, dit le chef des surveillants en hochant la tête. Il y avait une paille, fit observer M. Gault. Moi, reprit le médecin, je n'ose plus assigner de limites à la force nerveuse. C'est d'ailleurs ainsi que les mères, pour sauver leurs enfants, magnétisent des lions, descendent dans un incendie, le long des corniches, où des chats se tiendraient à peine, et supportent les tortures de certains accouchements. Là est le secret des tentatives des prisonniers et des forçats pour recouvrer la liberté. On ne connaît pas encore la portée des forces vitales, elles tiennent à la puissance même de la nature, et nous les puisons à des réservoirs inconnus. Monsieur, vint dire tout bas un surveillant à l'oreille du directeur qui reconduisait le docteur Lebrun à la grille extérieure de la conciergerie. Le secret numéro 2 se dit malade et réclame le médecin. Il se prétend à la mort, ajouta le surveillant. Vraiment, dit le directeur. Mais il râle, répliqua le surveillant. Il est 5 heures, répondit le docteur. Je n'ai pas dîné, mais après tout, me voilà tout porté. Voyons, allons. Le secret numéro 2 est précisément le prêtre espagnol, soupçonné d'être Jacques Collin, dit M. Gault au médecin, et l'un des prévenus dans le procès où ce pauvre jeune homme était impliqué. Je l'ai déjà vu ce matin, répondit le docteur. M. Camusot m'a mandé pour constater l'état sanitaire de ce gaillard-là, qui, soit dit entre nous, se porte à merveille et qui, de plus, ferait fortune à poser pour les Hercules dans les troupes de saltimbanques. Il peut vouloir se tuer aussi, dit M. Gault. Donnons un coup de pied au secret tous deux, car je dois être là, ne fût-ce que pour le transférer à la pistole. M. Camusot a levé le secret pour ce singulier anonyme. Jacques Collin, surnommé Trompe la mort dans le monde des bagnes, et à qui maintenant il ne faut plus donner d'autre nom que le sien, se trouvait depuis le moment de sa réintégration au secret, d'après l'ordre de Camusot, en proie à une anxiété qu'il n'avait jamais connu pendant sa vie marquée par tant de crimes, par 3 évasions du bagne et par 2 condamnations en cour d'assises. Cet homme, en qui se résume la vie, les forces, l'esprit, les passions du bagne, et qui vous en présente la plus haute expression, n'est-il pas monstrueusement beau par son attachement digne de la race canine envers celui dont il fait son ami ? Condamnable, infâble et horrible de tant de côtés, ce dévouement absolu à son idole le rend si véritablement intéressant que cette étude déjà si considérable paraîtrait inachevée, écourtée, si le dénouement de cette vie criminelle n'accompagnait pas la fin de Lucien de Rubempré. Le petit épagneul mort, on se demande si son terrible compagnon, si le lion vivra. Dans la vie réelle, dans la société, les fêtes s'enchaînent si fatalement à d'autres fêtes qu'ils ne vont pas les uns sans les autres. L'eau du fleuve forme une espèce de plancher liquide. Il n'est pas de flot, si mutiné qu'il soit, à quelque hauteur qu'il s'élève, dont la puissante gerbe ne s'efface sous la masse des eaux, plus forte par la rapidité de son cours que les rébellions des gouffres qui marchent avec elle. De même qu'on regarde l'eau couler en y voyant de confuses images, peut-être désirez-vous mesurer la pression du pouvoir social sur ce tourbillon nommé Vautrin, voir à quelle distance ira s'abîmer le flot rebelle, comment finira la destinée de cet homme vraiment diabolique, mais rattaché par l'amour à l'humanité. Tant ce principe céleste périt difficilement dans les cœurs les plus gangrénés. L'ignoble forçat, en matérialisant le poème caressé par tant de poètes, par Moore, par Lord Byron, par Maturin, par Canalis, un démon possédant un ange attitré dans son enfer pour le rafraîchir d'une rosée dérobée au paradis, Jacques Collin, si l'on a bien pénétré dans ce cœur de bronze, avait renoncé à lui-même depuis 7 ans. Ses puissantes facultés, absorbées en Lucien, ne jouaient que pour Lucien. Il jouissait de ses progrès, de ses amours, de son ambition. Pour lui, Lucien était son âme visible. Trompe la mort dînait chez les Grandlieu, se glissait dans le boudoir des grandes dames, aimait Esther par procuration. Enfin, il voyait en Lucien un Jacques Collin beau, jeune, noble, arrivant au poste d'ambassadeur. Trompe la mort avait réalisé la superstition allemande du double par un phénomène de paternité morale que concevront les femmes qui, dans leur vie, ont aimé véritablement, qui ont senti leur âme passer dans celle de l'homme aimé, qui ont vécu de sa vie, noble ou infâme, heureuse ou malheureuse, obscure ou glorieuse, qui ont éprouvé, malgré les distances, du mal à leurs jambes s'ils s'y faisaient une blessure, qui ont senti qu'ils se battaient en duel, et qui, pour tout dire en un mot, n'ont pas eu besoin d'apprendre une infidélité pour la savoir. Reconduit dans son cabanon, Jacques Collin se disait « On interroge le petit !» Et il frissonnait, lui qui tuait comme un ouvrier bois. « A-t-il pu voir ses maîtresses ?» se demandait-il. « Ma tante a-t-elle trouvé ces damnées femelles ? Ces duchesses, ces comtesses, ont-elles marché ? Ont-elles empêché l'interrogatoire ? Lucien a-t-il reçu mes instructions ? Et si la fatalité veut qu'on l'interroge, comment se tiendra-t-il ? Pauvre petit, c'est moi qui l'ai conduit là. C'est ce brigand de Paccard et cette fouine d'Europe qui causent tout ce grabuge en chipant les 750 000 francs de l'inscription donnée par Nucingen à Esther. Ces deux drôles nous ont fait trébucher au dernier pas. Mais ils paieront cher cette farce-là. Un jour de plus et Lucien était riche. Il épousait sa Clotilde de Grandlieu. Je n'avais plus Esther sur les bras. Lucien aimait trop cette fille, tandis qu'il n'eût jamais aimé cette planche de salut, cette Clotilde. Ah, le petit aurait alors été tout à moi. Et dire que notre sort dépend d'un regard, d'une rougeur de Lucien devant ce Camusot, qui voit tout, qui ne manque pas de la finesse des juges. Car nous avons échangé, lorsqu'il m'a montré les lettres, un regard par lequel nous nous sommes sondés mutuellement, et il a deviné que je puis faire chanter les maîtresses de Lucien. Ce monologue dura 3 heures. L'angoisse fut telle qu'elle eut raison de cette organisation de fer et de vitriol. Jacques Collin, dont le cerveau fut comme incendié par la folie, ressentit une soif si dévorante qu'il épuisa sans s'en apercevoir toute la provision d'eau contenue dans un des deux baquets qui forment, avec le lit en bois, tout le mobilier d'un secret. S'il perd la tête, que deviendra-t-il ? Car ce cher enfant n'a pas la force de Théodore. Se demanda-t-il en se couchant sur le lit de camp, semblable à celui d'un corps de garde. Un mot sur ce Théodore, de qui se souvenait Jacques Collin en ce moment suprême. Théodore Calvi, jeune Corse, condamné à perpétuité pour 11 meurtres à l'âge de 18 ans, grâce à certaines protections achetées à prix d'or, avait été le compagnon de chaîne de Jacques Collin de 1819 à 1820. La dernière évasion de Jacques Collin, une de ses plus belles combinaisons, il était sorti déguisé en gendarme et conduisant Théodore Calvi, marchant à ses côtés en forçat, mené chez le commissaire. Cette superbe évasion avait eu lieu dans le port de Rochefort, où les forçats meurent dru et où l'on espérait voir finir ces deux dangereux personnages. Évadés ensemble, ils avaient été forcés de se séparer par les hasards de leur fuite. Théodore, repris, avait été réintégré au bagne. Après avoir gagné l'Espagne et s'y être transformé en Carlos Herrera, Jacques Collin venait chercher son Corse à Rochefort lorsqu'il rencontra Lucien sur les bords de la Charente. Le héros des bandits et des maquis, à qui Trompe la mort devait de savoir l'italien, fut sacrifié naturellement à cette nouvelle idole. La vie avec Lucien, garçon pur de toute condamnation et qui ne se reprochait que des peccadilles, se levait d'ailleurs belle et magnifique comme le soleil d'une journée d'été. Tandis qu'avec Théodore, Jacques Collin n'apercevait plus d'autre dénouement que l'échafaud après une série de crimes indispensables. L'idée d'un malheur causé par la faiblesse de Lucien, à qui le régime du secret devait faire perdre la tête, prit des proportions énormes dans l'esprit de Jacques Collin. Et en supposant la possibilité d'une catastrophe, ce malheureux se sentit les yeux mouillés de larmes, phénomène qui, depuis son enfance, ne s'était pas produit une seule fois en lui. « Je dois avoir une fièvre de cheval, » se dit-il, « et peut-être en faisant venir le médecin et lui proposant une somme considérable, me mettrait-il en rapport avec Lucien ?» En ce moment, le surveillant apporta le dîner au prévenu. « C'est inutile, mon garçon, je ne puis manger. Dites à monsieur le directeur de cette prison de m'envoyer le médecin. Je me trouve si mal que je crois ma dernière heure arrivée. » En entendant les sons gutturaux du râle par lesquels le forçat accompagna sa phrase, le surveillant inclina la tête et partit. Jacques Collin s'accrocha furieusement à cette espérance. Mais quand il vit entrer dans son cabanon le docteur en compagnie du directeur, il regarda sa tentative comme avortée et il attendit froidement l'effet de la visite en tendant son pouls au médecin. « Monsieur a la fièvre, » dit le docteur à M. Gault. « Mais c'est la fièvre que nous reconnaissons chez tous les prévenus et qui, » dit-il à l'oreille du faux espagnol, « est toujours pour moi la preuve d'une criminalité quelconque. » En ce moment, le directeur, à qui le procureur général avait donné la lettre écrite par Lucien à Jacques Collin pour la lui remettre, laissa le docteur et le prévenu sous la garde du surveillant et alla chercher cette lettre. « Monsieur, » dit Jacques Collin au docteur, en voyant le surveillant à la porte et ne s'expliquant pas l'absence du directeur, « je ne regarderai pas à 30 000 francs pour pouvoir faire passer 5 lignes à Lucien de Rubempré. » « Je ne veux pas vous voler votre argent, » dit le docteur Lebrun. « Personne au monde ne peut plus communiquer avec lui. »« Personne ?» dit Jacques Collin stupéfait. « Et pourquoi ?»« Mais il s'est pendu. » Jamais tigre trouvant ses petits enlevés n'a frappé les jungles de l'Inde d'un cri aussi épouvantable que le fut celui de Jacques Collin, qui se dressa sur ses pieds comme le tigre sur ses pattes, qui lança sur le docteur un regard brûlant comme l'éclair de la foudre quand elle tombe. Puis il s'affaissa sur son lit de camp en disant « Oh, mon fils !»« Pauvre homme !» s'écria le médecin, ému de ce terrible effort de la nature. En effet, cette explosion fut suivie d'une si complète faiblesse que ces mots « Oh, mon fils !» furent comme un murmure. « Va-t-il aussi nous craquer dans les mains, celui-là » demanda le surveillant. « Non, ce n'est pas possible !» reprit Jacques Collin en se soulevant et regardant les deux témoins de cette scène d'un œil sans flamme ni chaleur. « Vous vous trompez, ce n'est pas lui. Vous n'avez pas bien vu. L'on ne peut pas se pendre au secret. Voyez, comment pourrais-je me pendre ici ? Paris tout entier me répond de cette vie-là. Dieu me la doit !» Le surveillant et le médecin étaient à leur tour stupéfaits, eux que rien depuis longtemps ne pouvait plus surprendre. M. Gault entra, tenant la lettre de Lucien à la main. À l'aspect du directeur, Jacques Collin, abattu sous la violence même de cette explosion de douleur, parut se calmer. « Voici une lettre que Monsieur le procureur général m'a chargé de vous donner, en permettant que vous l'eussiez non décachetée, » fit observer Monsieur Gault. « C'est de Lucien !» fit Jacques Collin. « Oui, monsieur. »« N'est-ce pas, monsieur, que ce jeune homme ?»« Est mort, » reprit le directeur. « Quand même monsieur le docteur se serait trouvé ici, malheureusement, il serait toujours arrivé trop tard. Ce jeune homme est mort, là, dans une des pistoles. » « Puis-je le voir de mes yeux ?» demanda timidement Jacques Collin. « Laisserez-vous un père libre d'aller pleurer son fils ?»« Vous pouvez, si vous le voulez, prendre sa chambre, car j'ai l'ordre de vous transférer dans une des chambres de la pistole. Le secret est levé pour vous, monsieur. » Les yeux du prévenu, dénués de chaleur et de vie, allaient lentement du directeur au médecin. Jacques Collin les interrogeait, croyant à quelque piège, et il hésitait à sortir. « Si vous voulez voir le corps, lui dit le médecin, vous n'avez pas de temps à perdre. On doit l'enlever cette nuit. »« Si vous avez des enfants, messieurs, dit Jacques Collin, vous comprendrez mon imbécilité. J'y vois à peine clair. Ce coup est pour moi bien plus que la mort, mais vous ne pouvez pas savoir ce que je dis. Vous n'êtes père, si vous l'êtes, que d'une manière. Je suis mère aussi. Je suis fou. Je le sens. » En franchissant des passages dont les portes inflexibles ne s'ouvrent que devant le directeur, il est possible d'aller en peu de temps des secrets aux pistoles. Ces deux rangées d'habitations sont séparées par un corridor souterrain formé de deux gros murs qui soutiennent la voûte sur laquelle repose la galerie du palais de justice, nommée la galerie marchande. Aussi, Jacques Collin, accompagné du surveillant qui le prit par le bras, précédé du directeur et suivi par le médecin, arriva-t-il en quelques minutes à la cellule où gisait Lucien qu'on avait mis sur le lit. À cet aspect, il tomba sur ce corps et s'y colla par une étreinte désespérée dont la force et le mouvement passionné firent frémir les trois spectateurs de cette scène. Voilà, dit le docteur au directeur, un exemple de ceux dont je vous parlais. Voyez, cet homme va pétrir ce corps, et vous ne savez pas ce qu'est un cadavre, c'est de la pierre. Laissez-moi là, dit Jacques Collin d'une voix éteinte. Je n'ai pas longtemps à le voir, on va me l'enlever pour... Il s'arrêta devant le mot enterré. Vous me permettrez de garder quelque chose de mon cher enfant. Ayez la bonté de me couper vous-même, monsieur, dit-il au docteur Lebrun, quelques mèches de ses cheveux, car je ne le puis pas. C'est bien son fils, dit le médecin. Vous croyez ? Répondit le directeur d'un air profond qui jeta le médecin dans une courte rêverie. Le directeur dit au surveillant de laisser le prévenu dans cette cellule et de couper quelques mèches de cheveux pour le prétendu père sur la tête du fils avant qu'on ne vînt enlever le corps. À 5h30, au mois de mai, l'on peut facilement lire une lettre à la conciergerie, malgré les barreaux des grilles et les mailles du treillis en fil de fer qui en condamnent les fenêtres. Jacques Collin épela donc cette terrible lettre en tenant la main de Lucien. On ne connaît pas d'homme qui puisse garder pendant 10 minutes un morceau de glace en le serrant avec force dans le creux de sa main. La froideur se communique aux sources de la vie avec une rapidité mortelle. Mais l'effet de ce froid terrible et agissant comme un poison est à peine comparable à celui que produit sur l'âme la main raide et glacée d'un mort tenu ainsi, serré ainsi. La mort parle alors à la vie, elle dit des secrets noirs et qui tue bien des sentiments. Car en fait de sentiments, changer n'est-ce pas mourir ? En relisant avec Jacques Collin la lettre de Lucien, cet écrit suprême paraîtra ce qu'il fut pour cet homme, une coupe de poison. À l'abbé Carlos Herrera. Mon cher abbé, je n'ai reçu que des bienfaits de vous et je vous ai trahi. Cette ingratitude involontaire me tue et quand vous lirez ces lignes, je n'existerai plus. Vous ne serez plus là pour me sauver. Vous m'aviez donné pleinement le droit, si j'y trouvais un avantage, de vous perdre en vous jetant à terre comme un bout de cigare, mais j'ai disposé de vous sottement. Pour sortir d'embarras, séduit par une captieuse demande du juge d'instruction, votre fils spirituel, celui que vous aviez adopté, s'est rangé du côté de ceux qui veulent vous assassiner à tout prix, en voulant faire croire à une identité que je sais impossible, entre vous et un scélérat français. Tout est dit. Entre un homme de votre puissance et moi, de qui vous avez voulu faire un personnage plus grand que je ne pouvais l'être, il ne saurait y avoir de niaiseries échangées au moment d'une séparation suprême. Vous m'avez voulu faire puissant et glorieux, vous m'avez précipité dans les abîmes du suicide, voilà tout. Il y a longtemps que je voyais venir le vertige pour moi. Il y a la postérité de Caïn et celle d'Abel, comme vous disiez quelquefois. Caïn, dans le grand drame de l'humanité, c'est l'opposition. Vous descendez d'Adam par cette ligne en qui le diable a continué de souffler le feu dont la première étincelle avait été jetée sur Ève. Parmi les démons de cette filiation, il s'en trouve de temps en temps de terribles, à organisation vaste, qui résument toutes les forces humaines et qui ressemblent à ces fiévreux animaux du désert dont la vie exige les espaces immenses qu'ils y trouvent. Ces gens-là sont dangereux dans la société comme les lions le seraient en pleine Normandie. Il leur faut une pâture, ils dévorent les hommes vulgaires et broutent les écus des niais. Leurs jeux sont si périlleux qu'ils finissent par tuer l'humble chien dont ils se sont fait un compagnon, une idole. Quand Dieu le veut, ces êtres mystérieux sont Moïse, Attila, Charlemagne, Robespierre ou Napoléon. Mais quand ils laissent rouiller au fond de l'océan d'une génération ces instruments gigantesques, ils ne sont plus que Pougatchev, Fouché, Louvel et l'abbé Carlos Herrera. Doués d'un immense pouvoir sur les âmes tendres, ils les attirent et les broient. C'est grand, c'est beau dans son genre. C'est la plante vénéneuse aux riches couleurs qui fascine les enfants dans les bois. C'est la poésie du mal. Des hommes comme vous doivent habiter des antres et n'en pas sortir. Tu m'as fait vivre de cette vie gigantesque et j'ai bien mon compte de l'existence. Ainsi, je puis retirer ma tête des nœuds gordiens de ta politique pour la donner aux nœuds coulants de ma cravate. Pour réparer ma faute, je transmets au procureur général une rétractation de mon interrogatoire. Vous verrez à tirer parti de cette pièce. Par le vœu d'un testament en bonne forme, on vous rendra, monsieur l'abbé, les sommes appartenant à votre ordre, desquelles vous avez disposé très imprudemment pour moi, par suite de la paternelle tendresse que vous m'avez portée. Adieu donc, adieu, grandiose statue du mal et de la corruption. Adieu, vous qui, dans la bonne voie, eussiez été plus que Ximénez, plus que Richelieu. Vous avez tenu vos promesses. Je me retrouve au bord de la Charente, après vous avoir dû les enchantements d'un rêve. Mais malheureusement, ce n'est plus la rivière de mon pays où j'allais noyer les peccadilles de ma jeunesse, c'est la Seine, et mon trou, c'est un cabanon de la conciergerie. Ne me regrettez pas, mon mépris pour vous était égal à mon admiration. Lucien. Avant 1 heure du matin, lorsqu'on vint enlever le corps, on trouva Jacques Collin agenouillé devant le lit, cette lettre à terre, lâchée sans doute, comme le suicidé lâche le pistolet qu'il a tué. Mais le malheureux tenait toujours la main de Lucien entre ses mains jointes et priait Dieu. En voyant cet homme, les porteurs s'arrêtèrent un moment, car il ressemblait à une de ces figures de pierre agenouillées pour l'éternité sur les tombeaux du Moyen-Âge par le génie des tailleurs d'images. Ce faux prêtre, aux yeux clairs comme ceux des tigres et raidi par une immobilité surnaturelle, imposa tellement à ces gens qu'ils lui dirent avec douceur de se lever. « Pourquoi ? » demanda-t-il timidement. Cet audacieux trompe-la-mort était devenu faible comme un enfant. Le directeur montra ce spectacle à M. de Chargebœuf, qui, saisi de respect pour une pareille douleur et croyant à la qualité de père que Jacques Collin se donnait, expliqua les ordres de M. de Granville relatifs au service et au convoi de Lucien qu'il fallait absolument transférer à son domicile du quai Malaquais, où le clergé l'attendait pour le veiller pendant le reste de la nuit. « Je reconnais bien là la grande âme de ce magistrat !» s'écria d'une voix triste le forçat. « Dites-lui, monsieur, qu'il peut compter sur ma reconnaissance. Oui, je suis capable de lui rendre de grands services. N'oubliez pas cette phrase, elle est pour lui de la dernière importance. Ah, monsieur, il se fait d'étranges changements dans le cœur d'un homme quand il a pleuré pendant 7 heures sur un enfant comme celui-ci. Je ne le verrai donc plus. » Après avoir couvé Lucien par un regard de mère, à qui l'on arrache le corps de son fils, Jacques Collin s'affaissa sur lui-même. En regardant prendre le corps de Lucien, il laissa échapper un gémissement qui fit hâter les porteurs. Le secrétaire du procureur général et le directeur de la prison s'étaient déjà soustraits à ce spectacle. Qu'était devenue cette nature de bronze où la décision égalait le coup d'œil en rapidité, chez laquelle la pensée et l'action jaillissaient comme un même éclair, dont les nerfs aguerris par 3 évasions, par 3 séjours au bagne, avaient atteint à la solidité métallique des nerfs du sauvage? Le fer cède à certains degrés de battage ou de pression réitérée. Ces impénétrables molécules, purifiées par l'homme et rendues homogènes, se désagrègent. Et sans être en fusion, le métal n'a plus la même vertu de résistance. Les maréchaux, les serruriers, taillandiers, tous les ouvriers qui travaillent constamment ce métal en expriment alors l'état par un mot de leur technologie. Le fer est roui, disent-ils en s'appropriant cette expression exclusivement consacrée au chanvre dont la désorganisation s'obtient par le rouissage. Eh bien, l'âme humaine, ou si vous voulez, la triple énergie du corps, du cœur et de l'esprit, se trouve dans une situation analogue à celle du fer, par suite de certains chocs répétés. Il en est alors des hommes comme du chanvre et du fer. Ils sont rouis. La science et la justice, le public, cherchent 1000 causes aux terribles catastrophes causées sur les chemins de fer par la rupture d'une barre de fer, dont le plus affreux exemple est celui de Bellevue. Mais personne n'a consulté les vrais connaisseurs en ce genre, les forgerons, qui ont tous dit le même mot, le fer était roui. Ce danger était imprévisible. Le métal devenu mou, le métal resté résistant, offre la même apparence. C'est dans cet état que les confesseurs et les juges d'instruction trouvent souvent les grands criminels. Les sensations terribles de la cour d'assises et celles de la toilette déterminent presque toujours chez les natures les plus fortes cette dislocation de l'appareil nerveux. Les aveux s'échappent alors des bouches les plus violemment serrées. Les cœurs les plus durs se brisent alors. Et, chose étrange, au moment où les aveux sont inutiles, lorsque cette faiblesse suprême arrache à l'homme le masque d'innocence sous lequel il inquiétait la justice, toujours inquiète lorsque le condamné meurt sans avouer son crime. Napoléon a connu cette dissolution de toutes les forces humaines sur le champ de bataille de Waterloo.